Radio Prague, les informations.
Le ministre irakien des Affaires étrangères est en visite à Prague. Le président tchèque rejette une solution unilatérale pour le Kosovo. Et puis les maires de villes et communes tchèques veulent un référendum sur les Jeux Olympiques à Prague. Lundi, au cours du jour de sa visite officielle à Prague, le chef de la diplomatie irakienne, Oshyar Zebari, a évoqué la possibilité d'un retrait de l'armée américaine de son pays en deux temps. Après une rencontre avec son homologue tchèque, Karel Schwarzenberg, il a également indiqué envisager un accord à long terme entre l'Irak, les États-Unis et d'autres pays pour une forme de coopération dans le domaine de la sécurité. Le président tchèque Václav Klaus a plaidé à Prague en faveur d'une solution acceptable pour toutes les parties au Kosovo. C'était lors d'un entretien avec son homologue serbe Boris Tadic, en visite lui aussi officielle en République tchèque. Les conséquences d'une solution unilatérale seraient très négatives à long terme, non seulement pour la Serbie, mais aussi pour toute la région et toute l'Europe. C'est ce qu'a indiqué Václav Klaus. Selon le chef de l'État tchèque, la solution au problème du Kosovo devrait venir de l'intérieur du pays et non de l'étranger. Lors d'une conférence de presse ce mardi à Prague, des maires de plusieurs villes et communes tchèques ont exprimé leurs craintes à l'égard de l'organisation des Jeux Olympiques. Prague est officiellement candidate pour 2016. Les élus demandent qu'un référendum soit organisé à ce sujet ou bien que la ville de Prague finance elle-même les Jeux Olympiques. Prague pourrait selon eux obtenir une aide financière de la Banque européenne pour les investissements et le développement. Les maires craignent surtout une baisse de leurs budgets municipaux. Seulement 13% des Tchèques ont des diplômes de l'enseignement supérieur, un chiffre inférieur de moitié à la moyenne des pays de l'OCDE, où près d'une personne sur quatre est diplômée. C'est ce qui ressort d'une comparaison avec les chiffres publiés cette semaine par l'Institut tchèque pour l'information sur l'éducation. Par ailleurs, la somme dépensée annuellement pour un étudiant tchèque est de 6 752 $, alors qu'elle est de 14 000 $ dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et puis en sport, en football, le capitaine du Sparta Prague a écopé d'une amende de 150 000 couronnes pour son comportement lors du match contre Teplice dimanche dernier. Expulsé, Tomáš Žižka avait notamment donné un coup violent sur l'objectif d'un caméraman alors qu'il rentrait au vestiaire. Le milieu du Sparta, Martin Abraham, a lui aussi été exclu dimanche et il a été condamné à une amende de 150 000 couronnes par le club pour avoir insulté l'arbitre. L'entraîneur adjoint, Horst Ziegel, a lui écopé de 50 000 couronnes d'amende pour des propos déplacés depuis le bord du terrain. On termine ce bulletin comme d'habitude avec la météo, des nuages et de la pluie en ce moment sur la République tchèque. Des températures en baisse aussi avec 14 degrés maximum mercredi, jour de fête des Krzysztof. C'était Alexis Rosenzweig pour les informations. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour la République tchèque au quotidien. En attendant, c'est Guillaume, beaucoup moins violent que le capitaine du Sparta, qui vous présente la suite du programme en français.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous, merci donc Alexis pour ce bulletin d'information et à vous, chers auditeurs, d'être une nouvelle fois fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en République tchèque. Au sommaire aujourd'hui, tout d'abord, la visite du président serbe Boris Tadic en République tchèque. Objet principal de cette visite est la situation au Kosovo, bien entendu. À l'issue de ces entretiens, le président tchèque a affirmé comprendre la position de la Serbie qui refuse l'indépendance à la province. Autre thème qui occupe une place importante dans les médias tchèques en ce début de semaine, les problèmes que rencontre la République tchèque dans l'utilisation des fonds européens. Plus de détails dans quelques instants, avant de passer à la présentation de l'ouverture de la semaine de l'architecture, un festival qui vit sa première à Prague. Enfin, nous terminerons avec un entretien, celui de la directrice du club français qui se trouve à Irlava dans la région de Vysočina. Mais en attendant de développer tous ces titres, l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Le président serbe Boris Tadic est en visite officielle en République tchèque lundi et mardi. L'avenir de la province du Kosovo a constitué le thème central de ses entretiens avec les représentants tchèques, tandis que Boris Tadic a fermement réaffirmé que l'indépendance du Kosovo était inacceptable pour Belgrade. Le président tchèque, Václav Klaus, a assuré que Prague comprenait la position de la Serbie. Rien de bien nouveau sous le soleil diplomatique. C'est en ces termes que pourrait donc être résumée la visite du président serbe en République tchèque. Les deux pays se sont entendus sur le fait qu'en l'état actuel des choses, une décision qui favoriserait uniquement la Serbie ou le Kosovo ne pouvait être prise. Au contraire, Václav Klaus a fait savoir qu'il estimait indispensable de trouver un compromis acceptable pour toutes les parties.
Si une solution unilatérale était choisie, ses conséquences seraient très négatives à long terme, seulement pour la Serbie, mais aussi pour toute la région et même pour l'ensemble de l'Europe.
Le chef de l'État tchèque a par ailleurs souligné que seules des négociations menées à l'intérieur du pays et non de l'extérieur pouvaient permettre de stabiliser la situation à long terme et de définir le statut final du Kosovo. Sans faire de déclaration radicale, Václav Klaus a toutefois laissé transparaître qu'il n'était pas enclin à une indépendance du Kosovo. Nous avons notre propre histoire et c'est pourquoi je pense que nous comprenons peut-être un peu mieux que d'autres pays l'ensemble de la problématique, a-t-il confié pour se justifier après son entretien avec son homologue serbe. De son côté, Boris Tadic a répété que la Serbie était opposée à l'indépendance réclamée par les Albanais, qui constituent 90% de la population d'une province placée sous l'administration de l'ONU depuis 1999. Je le dis de manière très paisible, mais aussi déterminée, a précisé le président serbe. Tout en assurant que son pays, qui accepte une large autonomie du Kosovo, aspirait lui aussi à trouver un compromis, il a indiqué que tous les moyens légaux, politiques et diplomatiques seraient mis en œuvre pour empêcher l'indépendance d'une province qui représente 15% du territoire de la Serbie. Si elle n'a donc accouché d'aucune déclaration traduisant une avancée quelconque dans les négociations, la visite de Boris Tadic en République tchèque a néanmoins confirmé que la définition du statut indéterminé du Kosovo, à laquelle participent les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, reste à l'heure actuelle toujours aussi floue. La République tchèque devrait bénéficier de 5 milliards d'euros de subventions des fonds européens par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation. Il vient de s'avérer que cela cause certains problèmes à ce ministère, problèmes qui ont même ébranlé le fauteuil de la ministre Dana Kurtova. Plus de détails avec Alain Slivaski.
Le versement des subventions des fonds européens est menacé. En dernier lieu, pour deux programmes, l'éducation à la concurrence et la recherche et le développement pour l'innovation. Il y a quelque temps, la ministre de l'Éducation, Dana Kurtova, avait été avertie, notamment par le Premier ministre Mirek Topolánek, qu'elle pourrait être limogée. Mihaela Šojdrová, experte pour l'éducation et issue du Parti chrétien démocrate au gouvernement, déclarait que les subventions européennes pour la recherche tchèque étaient menacées en raison du désordre qui règne au ministère de l'Éducation. La ministre a même été l'objet de la critique du président du Parti des Verts, qu'elle représente au gouvernement, Martin Bursík. Il s'est avéré que la Commission européenne avait stoppé le processus d'adoption du premier programme et menacé de faire de même avec le second si les projets présentés par le ministère de l'Éducation n'étaient pas corrigés. La Commission européenne reproche à ce dernier d'avoir présenté un projet qui se recouvre avec celui du ministère de l'Industrie. Elle demande de corriger le projet du ministère. Cela a été finalement fait pendant le week-end dernier avec la collation du Conseil gouvernemental pour la recherche et le développement, ce qui a sauvé, pour un temps, le poste de Dana Kurtova, qui explique les raisons des problèmes actuels.
J'avais pris ma fonction depuis un mois seulement, quand on m'a fait savoir qu'un projet élaboré par le gouvernement précédent était envoyé à la Commission européenne et qu'il était pratiquement inutilisable. En un mois, je n'ai pas eu la possibilité de corriger ce projet. Les informations que j'ai reçues étaient insuffisantes.
Pourtant, un week-end a suffi pour mettre un nouveau projet sur pied, projet qui sera encore examiné par la société de conseil PricewaterhouseCoopers, le ministère des Finances et enfin la Commission européenne. Les milliards attendus avec impatience par la sphère de la recherche en Tchéquie arriveront-ils ? Le Premier ministre, Mirek Topolánek, y veillera personnellement et n'a pas révoqué la ministre, pour l'instant.
La semaine de l'architecture a débuté le 17 septembre à Prague. C'est la toute première édition pragoise de ce festival de l'architecture qui existe déjà dans de nombreuses autres grandes villes d'Europe. Expositions, visites et conférences sur la création contemporaine, les liens entre développeurs immobiliers et architectes animent cette semaine de l'architecture, comme nous l'explique Anna Kubišta.
On peut dire que cette toute première semaine de l'architecture à Prague tombe à point nommé. Après la polémique soulevée par le projet gagnant de la future bibliothèque nationale réalisée par Jan Kaplecki et après le feu vert donné par le ministère de la Culture au projet d'aménagement controversé de la colline de Pankratz. Ce nouvel événement est donc l'occasion de rapprocher le public profane qui souffre parfois d'incompréhension et suscite à tort ou à raison la méfiance, que ce soit à cause des simples formes que créent les architectes ou bien parce que le monde de l'immobilier a une réputation sulfureuse. Pavel Chesny est designer et l'un des organisateurs de la Semaine de l'architecture. Il a précisé à Radio Prague quels étaient les courants actuels de l'architecture tchèque.
Je pense que chez nous, la grande tendance est au minimalisme. Mais à l'heure actuelle, une nouvelle génération d'architectes voit le jour qui se détache du minimalisme et vont plutôt dans le sens de l'ornementation, de manière assez hardie d'ailleurs. Par exemple, le studio Cubus qui a reconstruit une église. Partout sur le sol sont étendus des tapis orientaux sur lesquels sont déposées des chaises de luxe du designer Werner Patton, dans lesquelles ont été découpées de petites croix. Donc vous entrez dans l'église, dont l'aspect est plutôt ancien, et soudain vous vous retrouvez face à quelque chose de complètement atypique qui accentue le sentiment du rapport avec Dieu.
Cette église un peu spéciale, c'est l'église Saint-Bartholomé à Chodowice, Bohême de l'Est. Mais la conception d'un bâtiment, ce n'est de loin pas uniquement l'esthétique. Pavel Chesny explique que depuis 20 ans qu'il travaille avec toutes les parties impliquées dans la conception de l'urbanisme d'une ville, architecte, développeur immobilier ou municipalité, il peut capter les choses de l'intérieur. Il rappelle ainsi que chacun ne voit souvent que son propre point de vue.
Potřebuje, aby ty metry čtvereční tam byly, aby se samozřejmě stavba jako zaplatila, což...
Le développeur a besoin qu'il y ait les mètres carrés qu'il faut, que le bâtiment soit payé, ce qui est logique. L'architecte veut construire un bel édifice qui, bien entendu, est toujours en contradiction avec l'opinion du développeur, du point de vue financier. Mais il y a beaucoup de développeurs qui veulent construire de beaux bâtiments. Rajoutez à cela les municipalités qui veulent développer leur quartier. Enfin, les institutions type monument historique qui disent « pas ici, pas là ». De nouveau, il y a deux points de vue.
La semaine de l'architecture se décline aussi en plusieurs langues, puisque tout au long de la semaine ont lieu des conférences de spécialistes réputés venus de Belgique, de France, d'Italie, de Suisse ou même de Croatie.
La francophonie semble se développer et bien se porter aussi en dehors de la capitale tchèque. C'est pour satisfaire les francophiles et les francophones de la région de Vysočina, le plateau tchéco-morave, qu'un club français a été constitué à Irlava, une ville de près de 50 000 habitants. Il est géré par Eva Mikulikova, enseignante au lycée, qui a offert quelques explications à Alena Gebertova.
Notre club a été fondé il y a 2 ans, en septembre 2005, et c'était à l'initiative de jeunes gens pour créer un lieu où on pourrait organiser des activités, diffuser la langue et la langue française, la culture, rencontrer des gens, trouver des amis, etc.
Qui sont ces jeunes? Ce sont des étudiants du cycle secondaire?
À vrai dire, c'était plutôt les jeunes profs, les jeunes professeurs qui aimaient bien la langue française et qui voulaient aussi organiser quelque chose pour le public ouvert à tous.
Et quelles sont vos activités?
Alors, je peux dire par exemple, je peux présenter quelques soirées, quelques rencontres, parce que nous organisons toujours les rencontres à thème. Par exemple, rencontre des voyageurs, on a parlé et on a présenté des lieux comme par exemple Besançon ou bien Larzac ou bien Provence, Bretagne, etc. Et puis nous organisons aussi par exemple quelques soirées musicales ou bien soirées écriture créatrice ou bien on fait des calligrammes, etc. Et pendant les mois de mai ou en été, nous organisons aussi les tournois de pétanque, etc. Et nous organisons aussi, par exemple, les fêtes de la cuisine française. Nous voudrions présenter des différentes choses de la culture française.
Pensez-vous que l'intérêt pour le français, pour la culture française, a tendance à augmenter dans votre ville, mais pas seulement dans votre ville, dans toute la région de Vysočina?
C'est vrai. C'est tout à fait comme ça. Je pense que la culture française, surtout la langue française, est de plus en plus préférée. On le voit aussi au lycée, on le voit aussi dans les écoles de langue. Il y a plus de gens qui s'intéressent à cette langue et il y a beaucoup de gens qui aiment voyager dans les pays francophones.
Des festivités de votre anniversaire vont se dérouler vers la fin de cette semaine, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez prévu à cette occasion?
Nous voudrions faire une toute petite exposition qui rappelle les moments agréables de nos rencontres. Alors, vous pouvez regarder quelques photos de nos rencontres. Puis, on va préparer du fondu pour les invités, pour les gens qui vont venir. Et puis, on va jouer quelque chose. Ça va être une petite surprise théâtrale. Et puis, puis voilà, on va préparer quelques quiz, quelques mots croisés. Alors, j'espère qu'on va bien s'amuser.
Le Club français de Hirlava s'inscrit dans un projet plus large de l'association de soutien de l'amitié internationale baptisée Le Soleil. Voilà, c'est donc avec Eva Mikulikova, directrice du Club français de Hirlava dans la région de Vysočina, que se referment ces faits événements. Merci donc de votre attention et de bien vouloir rester en notre compagnie pour la suite de notre programme en français.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de cette nouvelle édition de la République tchèque au quotidien. Et direction aujourd'hui le quartier de Žižkov, près du centre de la capitale, pour la visite d'une école. Une école pas comme les autres, une école d'enseignement secondaire de droit social, créée à l'origine pour les jeunes Roms. D'ailleurs, lors de sa création, l'établissement s'appelait l'école Rom. On va tout de suite à Žižkov, donc, Havličkové náměstí, à la rencontre des élèves, profs et directeurs de cette école atypique dans le système élif tchèque. Lundi, la sonnerie marque la fin de la première récréation du matin. Une quinzaine de jeunes rentrent dans la salle de classe. La rentrée a eu lieu récemment et l'emploi du temps n'est pas encore définitivement établi. Mais tous les élèves inscrits ici sont impatients de commencer le programme de l'année. Parmi les matières enseignées dans cette école, il y a du tchèque et de l'histoire, bien sûr, mais aussi une formation à la médecine, au droit et au travail communautaire. Milan a 17 ans, il est en première. Après quelques échecs dans des écoles où il se sentait différent, il dit avoir trouvé dans celle de Žižkov une formation qui lui correspond.
J'ai choisi cette école parce que je veux aider les gens qui sont dans le besoin, surtout les Roms. Ici, on a des profs spéciaux qui ont des expériences dans le domaine. Ils nous en parlent et nous expliquent ce que nous pouvons faire pour les aider.
Et parmi les matières enseignées dans cette école, il y a aussi la langue romani. Certains des élèves comprennent la langue de leurs ancêtres, mais peu la parlent activement. Entre eux, en cours et dans la rue, ils parlent tchèque. Tomáš est dans la même classe que Milan, il ne parlait pas du tout le romani avant de s'inscrire ici.
C'est important pour nous d'apprendre la langue romani. Cela nous permet de communiquer avec des gens de notre communauté qui ne parlent pas bien le tchèque ici, ça me plaît. Et puis j'apprends comment venir en aide à ma propre communauté. Et puis j'ai l'impression que les gens me comprennent mieux que dans l'école où j'étais avant.
Helena Fetchova est professeure de langue romani dans l'école de Žižkov. Elle a commencé à l'enseigner l'année dernière. D'après elle, plus de 30% des Roms tchèques ne comprennent pas le romani aujourd'hui. On l'écoute.
C'est certainement une étape d'une énorme importance que celle de l'apprentissage de cette langue. Cela va prendre un peu de temps, mais en tout cas c'est primordial qu'ils reconnaissent cette langue comme la leur, qu'elle est indissociable de leur appartenance ethnique. Beaucoup d'enfants ne savent pas vraiment à quelle communauté ils appartiennent. Cette langue est très importante pour leur identité.
L'école d'enseignement secondaire de droit social a été fondée par Émile Chouka, juriste de formation. Formé au droit sous le communisme, Émile Chouka est une figure de la communauté rom tchèque. Après la Révolution, il s'est lancé dans la politique, a fondé le premier parti politique communautaire, appelé Initiative Civique Rome, et est devenu le secrétaire général de l'Union internationale des Roms. À la fin des années 90, il quitte la politique pour se lancer dans ce projet éducatif. 10 ans après, son école est présente dans 6 villes du pays. Il est aujourd'hui fier de compter plus d'un millier d'élèves en tout.
J'ai créé cette école il y a 10 ans pour que les Roms aient la possibilité d'étudier. Il n'y a pas plus de discrimination dans le système tchèque que dans le système français ou allemand, par exemple. Peut-être même que le système tchèque est meilleur, mais la discrimination existe. Notamment avec les écoles spéciales, il n'y a pas d'égalité des chances.
Les écoles spéciales, des écoles destinées aux enfants à problème ou handicapés, un legs du régime communiste. En République tchèque, comme dans d'autres pays de la région, une forte proportion de jeunes Roms sont très rapidement orientés vers ces écoles spéciales qui n'offrent pas de perspective d'avenir. L'objectif d'Émile Chouka est de faire en sorte que les jeunes sortent de son école avec le bac en poche, un minimum aujourd'hui selon lui.
Environ 70% des inscrits obtiennent leur bac à notre école. Après, la majorité d'entre eux travaillent. Parfois, les filles ont des enfants, donc sont en congé maternité. Et puis certains continuent leurs études à l'université. Nous avons aujourd'hui des étudiants dans les facultés philosophiques et pédagogiques, en droit et à l'académie de police.
Et il n'y a pas que les jeunes qui s'inscrivent dans l'école d'Émile Chouka pour passer le bac. À plus de 60 ans, Elena Fechova, qui enseigne aujourd'hui le romani, a voulu relever le défi.
Je n'étais allée qu'à l'école primaire. Et à 65 ans, je me suis fixé cet objectif et j'ai voulu m'offrir à moi-même ce cadeau. Je me suis inscrite dans cette école pour devenir bachelière.
Passer le bac, c'est l'objectif de tous les élèves de cette école de Jižkov, mais pas le seul. Monica a 16 ans, elle y est inscrite depuis l'année dernière.
Oui, je veux avoir mon bac, et puis pour moi, ce serait bien de rendre service aux gens de ma communauté, parce que les Roms sont socialement faibles et que certains d'entre eux ont besoin d'aide.
Certaines critiques se sont pourtant faites entendre contre le projet d'Émile Chouka et contre cette école rome, même si quelques élèves non-roms y sont inscrits. Le projet est soutenu par la ministre en charge des droits de l'homme et des minorités, Jamila Shterlikova, mais pour certains, c'est une forme d'autodiscrimination, des critiques auxquelles refuse de répondre le directeur.
Je ne réponds rien à toutes ces critiques. Moi, je travaille. Je n'ai pas le temps de répondre. J'ai un objectif et je travaille pour le réaliser. Cette école donne leur chance prioritairement aux Roms, mais elle donne leur chance aussi aux Tchèques, à ceux qui n'ont pas peur des Roms, qui n'ont pas peur d'aller en cours avec des Roms. Ces Tchèques-là sont les bienvenus dans l'école.
Et Émile Chouka ne compte pas en rester là.
À l'avenir, je veux travailler pour soutenir la culture et la Rome, toujours dans le secteur de la formation, pour que l'on n'oublie pas que les Roms ont été parmi les premiers musiciens et artistes en Europe. C'est pour cela que je viens d'ouvrir un nouveau conservatoire à Prague.
On termine donc cette émission en musique avec le rappeur rom, Gypsy, pour qui la musique est également un facteur important d'intégration. Il vient justement d'être nommé officiellement ambassadeur tchèque dans le cadre de l'année européenne de l'égalité des chances. Yeah, do it!
C'est la fin pour aujourd'hui des émissions en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous sur notre site internet www.radio.cz ou dès demain, près de vos postes, même heure, même fréquence. Ahoy.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz. And finally, listeners in Southwest Asia can tune in at 3:30.